Alors, à la vie en BD, ben, cette semaine, on plonge dans un ouvrage qui est arrivé il y a de ça quelques semaines chez les libraires du côté américain, quelques mois chez les libraires du côté européen, un livre massif, près de 450 pages, consacré à un sujet tout aussi massif, celui de la bombe atomique, de sa création jusqu'à son lancement. C'est un ouvrage titanesque qui a été salué d'ailleurs par la critique du côté européen, entre autres, et du côté québécois également. Donc, au fur et à mesure de la sortie, on voit les réactions positives à cet ouvrage qui est atypique, j'ai l'impression, dans la production BD actuelle et même de façon large, ne serait-ce que par son format, par la richesse de sa documentation également. Et on a envie d'en jaser avec l'un des artisans de cet ouvrage. Donc, au scénario, c'était Laurent-Frédéric Bollé et Didier Alcante. Au dessin, c'était Denis Rodier. Il est avec nous, donc, en visio. Denis Rodier, bonjour.
Ben, bonjour, bonjour.
Alors, évidemment, en fait, il faut le mentionner d'entrée de jeu, c'est pas le premier projet à caractère historique auquel vous vous attaquez. Il y a eu Staline tout juste un peu avant, cette bombe. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour les thématiques historiques, pour l'histoire du 20e siècle?
Oui, c'est peut-être un peu familial tout ça. On a toujours eu un goût pour l'histoire. J'ai même de mes sœurs qui étudient en histoire. Ça a toujours fait partie de nos conversations et tout. Puis moi, étant le plus jeune de la famille, bon, ben, j'écoutais toujours ça avec un peu de fascination. Puis pouvoir allier mon goût de la lecture BD avec l'histoire, c'est d'autant plus intéressant pour moi.
Oui, puis j'imagine dans un contexte aussi où avec la bombe, avec un sujet comme la bombe atomique, il y a un réflexe qu'on pourrait penser, qu'on pourrait avoir, de dire, bon, on fait un ouvrage qui est peut-être un peu plus pamphlétaire, qui prend position pour, contre l'énergie atomique. Mais dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un ouvrage, un documentaire historique, j'ai presque envie de dire, dans la mesure où on y va avec une grosse recherche historique, je le disais en introduction, puis avec un côté très factuel aussi, dans ce qu'on cherche, très neutre, dans ce qu'on cherche à mettre de l'avant.
Oui, parce que notre approche du premier moment où on a commencé tout ça, c'était avoir une approche historique. On n'avait presque pas besoin de faire de la dramaturgie avec tout ça parce que tout était déjà dans l'histoire. On parle d'une course à la bombe, donc en plein milieu d'une guerre, tous les éléments dramatiques sont là. Il s'agissait simplement de fixer le cadre. Parce qu'habituellement, quand on parle de la bombe atomique, la première bombe atomique avec Hiroshima, ben on se contente du projet Manhattan. Mais pour nous, c'est plus large que ça. Ça part de l'Europe, ça part de la recherche scientifique et notre point de vue était bien plus celui des scientifiques qui découvraient des choses puis qui que ces découvertes-là leur échappaient. Donc, c'était un peu ça notre prémisse de base. Donc, il fallait reculer un peu plus loin que le projet Manhattan au moment où le gouvernement américain accepte de le financer.
Oui, donc on va vraiment en fait, parce que vous le dites, dans le fond, c'est oui, la déflagration d'Hiroshima et ses conséquences, les premières minutes où la bombe a été conçue, mais on va plus loin, la découverte de la fusion nucléaire, son usage par les Américains, la course scientifique, l'espionnage, donc il y a vraiment une mise en contexte, et même une mise en contexte scientifique, parce que pour en arriver à être capable de maîtriser l'énergie atomique pour faire la bombe, bien, il a fallu aussi avoir un amoncellement, une série de découvertes pour en arriver à ce point-là, à ce stade-là.
Oui, parce que si on veut, l'élément déclencheur de tout ça, c'était justement la science qui se développait beaucoup à partir des curies et tout ça, mais qui s'est aussi beaucoup mis de l'avant avec des scientifiques européens qui ont à peu près tous fui le nazisme et le fascisme italien. C'est là qu'on fait la rencontre de Léo Szilard qui, lui, a eu le flash, a eu l'intuition que pouvait y avoir une fission atomique et une réaction en chaîne. Donc, théoriquement, on pouvait arriver à une bombe atomique, on pouvait arriver avec un engin qui pourrait être très destructeur. Puis, venant lui-même de l'Europe, a senti tout de suite que si la recherche continuait dans ce sens-là, les Allemands pourraient potentiellement construire une bombe. Et c'est ça qu'il fallait empêcher.
Oui, c'est un peu ce qui est déterminant dans l'arche narrative, d'ailleurs, autour de Léo Szilard, cette volonté d'entrée de jeu, de dire, ben, faut pas que les Allemands aient cette puissance-là entre les mains. Donc, on va aller vers les États-Unis, on va les encourager, les appuyer, les accompagner dans le développement de cette arme-là. Mais du moment où l'Allemagne tombe, lui dit, ben là, regarde, les États-Unis, on peut pas se permettre d'utiliser cette puissance-là, on n'a plus le besoin de l'utiliser. Et là, il y a un peu un revirement du côté de ce personnage-là aussi.
Oui. Le revirement est quand même assez progressif dans le sens où de plus en plus il comprend jusqu'à quel point ça peut être destructeur. Puis, du moment où est-ce que on s'aperçoit, en ayant battu les Allemands, que leur programme nucléaire était en marche, mais était en aucun moyen, il n'y avait aucunement les moyens de le réaliser, ben c'est là que lui a commencé déjà à mettre le pied sur le frein pour essayer d'arrêter ces choses-là. Puis pour nous, c'est pour ça que le personnage de Léo Szilard est important, parce que c'est lui qui a allumé la mèche, si on peut dire ça comme ça, pour que les Américains embarquent dans ce programme-là. Mais tu es aussi le premier à dire non, il ne faudrait pas l'utiliser. Il faudrait faire un contrôle là-dessus. Après la guerre, a vraiment milité jusqu'au bout pour qu'on ne l'utilise pas.
Et c'est toujours un peu la dynamique particulière, d'ailleurs, autour de ce récit-là, dans la mesure où, et on imagine, dans le fond, chacun y va un peu avec sa contribution, du côté scientifique, du côté militaire, du côté politique, et un peu dans l'après aussi, dans la façon dont on réagit à ce qui vient de se passer, au fait que la bombe a été lâchée, à la quantité de morts que ça va générer aussi, et entre la réaction d'un Szilard et la réaction... De votre général aussi, qui lui va jouer au tennis en attendant. Bon, c'est ça, chacun un peu sa réaction, mais on sent qu'il risque d'avoir un peu des regrets aussi, en fait, que ça va être difficilement vécu, si on peut dire, par un peu tout le monde.
Oui, parce que aussitôt qu'arrive Hiroshima et Nagasaki, on s'aperçoit là, de visu de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les résultats de tout ça. Donc, pour nous, c'est important de faire abstraction un peu de ce qui a suivi pour vraiment parler de la construction puis de la réalisation de la bombe. Ok, ces gens-là étaient aucunement au fait de ce qui pouvait arriver autre que en théorie, mais tout le monde était vraiment surpris, soufflé, si j'ose dire. Donc, il fallait pour nous centrer le récit sur quelque chose comme ça. Puis l'illustrer de façon à ce que le centre du conflit soit le militaire, le politicien et le scientifique, pour nous, ça faisait vraiment une belle nuance en toutes les façons dont on pouvait percevoir le nucléaire. Ça rendait le côté humain encore plus une fois... où on arrive avec les Japonais, qui eux sont victimes de cette chose-là. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, ben, pour nous, ça devait faire partie d'un autre débat. Nous, c'était vraiment la construction, la réalisation de la bombe, puis de vraiment comprendre qu'est-ce qui a poussé les Américains, ben, les Alliés, en fin de compte, à développer un truc comme ça.
Oui, qu'est-ce qui les a poussés, qu'est-ce qui les a amenés à le faire. Et j'aime l'élément justement que vous amenez, donc l'idée des démonstrations, des explications, des contextualisations qui sont faites. Parce que, bon, évidemment, puis on y reviendra sur des éléments plus scientifiques, mais puisqu'on est un peu sur le militaire, eh bien, on nous explique aussi, vous nous expliquez, pourquoi ben, les États-Unis jugeaient nécessaire de ralentir un peu, d'accélérer la chute du Japon, dans le fond, qu'il y avait des intérêts avec la Russie, qu'il y avait des enjeux. Donc, il y a un contexte politique aussi qui vient contextualiser, dans le fond, évidemment, les décisions qui ont été prises d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire.
Oui, parce que c'est certain qu'on aurait pu aller plus loin justement dans ce contexte géopolitique-là, sans Bon, avec 450 pages, il fallait quand même se limiter un petit peu. Mais il reste que, oui, c'est comme si Hiroshima mettait la table pour pour la suite, pour la guerre froide et tout ça. Donc, il était important de au moins laisser des pistes, OK, à savoir, bon, ben, oui, est-ce que l'utilisation était justifiée? Est-ce que la démonstration n'aurait pas été mieux? Là, on commençait à sortir un peu du sujet de l'album. Parce que y a le désir d'être exhaustif, OK? Mais être exhaustif, bon, ben, ça n'a plus de fin. Puis, avec un sujet comme celui-là, en concentrant, on effleure à peine le sujet de Nagasaki. Parce que, justement, c'est comme si ça découlait naturellement de la chose. Puis l'histoire, c'était pas l'histoire de la guerre atomique, c'était l'histoire de la création de la bombe atomique.
Exact. Dans le fond, de bien centrer le sujet, puis de se dire, bien, OK, on a beaucoup d'espace pour bien l'expliquer, pour bien le raconter. Mais dans le fond, il faut bien le circonscrire aussi, parce que sinon, vous le dites, en fait, autant vous, d'un point de vue documentation visuelle, autant Bollé et Alcan, d'un point de vue documentation papier, texte, récit. Dans le fond, il a dû avoir une quantité de sources quand même assez imposante. J'imagine des sources aussi qu'on doit confronter, mettre en relation les unes avec les autres. Oui. Donc, c'est déjà titanesque comme ouvrage.
Oui, mais c'est là que vient l'intérêt de faire un roman graphique de cette taille-là, parce qu'on peut nuancer. OK? Vous parliez tantôt du général Groves qui, pendant que l'avion Enola Gay était en route pour lâcher la bombe, est parti jouer au tennis. Bon, bien, si on fait une simple petite recherche sur Internet sans aller trop loin, cette anecdote-là est utilisée comme si le général Groves avait une attitude désinvolte face à la destruction. Au contraire, c'est qu'il était tellement stressé, comme on dit si bien, il se pouvait plus. Il fallait qu'il lâche la pression un petit peu. Okay? Donc, rajouter cette petite anecdote-là faisait en sorte que ça humanisait malgré tout un gars comme le général Groves qui est en aucune façon un personnage sympathique. Mais les rendre humains, ça permet d'ajouter de la nuance. Puis Dieu sait que sur le sujet du nucléaire, il y en a rarement.
Oui, puis en fait, j'aime bien l'élément que vous amenez sur l'importance de la nuance, du détail, puis de l'espace pour le détail. Si on est sur le général Groves, ben c'est un bon exemple justement ce que vous venez de mentionner. Puis aussi, je pense à d'autres séquences comme ça qu'on insère, des fois des cases, des micro-détails, mais je pense à une séquence où il y a une fête, par exemple, et lui regarde la fête un peu plus loin à travers une fenêtre. On sent qu'il aimerait peut-être être là, mais que, bon, sa fonction, l'obligation fait qu'il ne peut pas y être. Donc, ça nous permet d'expliquer puis de contextualiser l'humain aussi au-delà de sa simple fonction.
Oui, puis c'est justement, tu sais, quand on dit que c'est un roman graphique à hauteur d'homme, c'est l'intérêt de cette chose-là. Cette scène-là servait autant à illustrer le personnage du général Groves qu'à aussi mettre en contexte l'ambiance du projet Manhattan, parce que on a souvent, de la même manière dont on a parlé de la partie de tennis du général Groves, on a souvent montré les soirées où les scientifiques picolaient un peu et fêtaient pendant la création d'une arme aussi dévastatrice. Ce qui arrive, c'est que ce que Oppenheimer, en fin de compte, explique au général Groves, c'est qu'on est tous des humains et qu'on a besoin de décompresser, on a besoin de vivre malgré la guerre. Puis, ça permet encore une fois de nuancer certaines choses. Parce que si on prend ces deux anecdotes-là et on les extrait du contexte, tout à coup, on tombe dans un manichéisme qui fait en sorte que c'est les méchants américains qui construisent une bombe, puis ils en rigolent tout simplement. Ils s'en foutent. C'est pas tout à fait le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, et je pense que les éléments qu'on met de l'avant actuellement montrent bien l'importance justement de l'ampleur de ce récit-là. Donc, c'est pas un caprice d'auteur de dire, ben, on fait un roman graphique de 450 pages. C'est que d'un côté, la documentation le nécessite, le sujet le nécessite, et la charge émotionnelle associée au sujet le nécessite aussi, parce que en allant dans ce niveau de détail-là et de précision, ça nous permet de décupler aussi, j'ai l'impression, la force de qui est présenté dans la compréhension des émotions des humains à l'intérieur du récit, autant que dans la façon dont nous, lecteurs, on reçoit aussi cette charge émotionnelle-là.
Oui, parce que c'est trop facile de prendre les événements puis les aligner bout à bout, donner des dates, des choses comme ça, puis oublier l'élément humain, parce que c'est une arme absolument épouvantable, mais en même temps, si on met tout ça dans le contexte d'une guerre où, dans l'éventualité où Hitler possédait sa copie, sa bombe atomique, ben on peut comprendre les gens de vouloir à tout prix en construire une. On peut comprendre aussi la réaction initiale des gens qui ont construit cette bombe-là quand elle a vraiment explosé sur Hiroshima. Parce que c'est un projet titanesque. C'était 4 milliards de dollars de l'argent d'époque. Ils ont construit des villes carrément pour seulement raffiner l'uranium. Ça aurait été épouvantable que ça ne réussisse pas dans un certain sens. Okay? Quand on se met du côté militaire, quand on sait du côté politique, ça aurait été une catastrophe pour eux. Bon, évidemment, on met ça en contexte, puis on n'essaie pas de dire, ben oui, il y a une chance que ça a explosé parce que ça aurait coûté beaucoup d'argent. C'est pas ça que je veux dire. Mais il reste que quand la bombe explose, on peut comprendre que oui, oh, ils ont fêté. Mm-hmm. C'est pour ça que le faire un genre de parallèle avec l'illustration des victimes et des militaires qui sont contents que ça ait réussi, ça ajoute un deuxième niveau de lecture aussi, et ça ajoute une certaine touche d'ironie à tout ça. Encore une fois, c'est une question de nuancer puis de rendre les choses humaines, parce que c'est normal, c'est humain pour ces gens-là d'avoir célébré la fin de la guerre pour eux.
Et peut-être en faire, venons sur ce que je parlais justement de la taille, de l'aspect imposant de cet ouvrage-là, et je pense qu'on ne peut pas le mettre de côté, d'autant qu'on parle au dessinateur qui a eu 441 planches à dessiner, un marathon qui est devenu à un moment donné quoi, un 16 planches par mois. Pour se figurer 441 planches, que j'avais l'impression à ce stade-là de chiffre, ça ne veut plus rien dire à part la taille, mais c'est l'équivalent de 8 albums de 54 pages. Et dans un contexte où, en plus, ben, on savait exactement l'ampleur de la production, il y avait l'ampleur de la documentation dont on esquissait un peu la teneur, et dans un contexte où il y avait une date de lancement qui était quand même assez précise. Enfin, on voulait arriver au 75e anniversaire de la bombe. Donc, j'ai l'impression, en fait, j'essaie de me figurer Denis Roddy en train de se préparer à tout ça, et je me disais, mon Dieu, c'est un coureur qui va faire un marathon. Là. C'est rien de moins que ça.
Ouais, ben, c'était ça, virtuellement un marathon. On savait la date du passage de l'impression un an d'avance. On était vraiment avec les tableaux Excel qui nous donnaient nos objectifs à chaque fois. Mais de mon côté, moi, je ne prenais pas l'album dans son entier. Il ne fallait pas que je pense à la 441e page au moment où j'entame la 5e, parce que rendu à la 100e, j'aurais été découragé. Non, c'était vraiment un marathon où est-ce qu'on fait un pas à la fois. J'ai eu l'expérience avec Superman où on travaillait sur un feuilleton. Donc, j'ai fait quelques mille pages dans ces années-là pour Superman. Donc, j'avais l'habitude, la discipline pour s'asseoir à la table à dessin puis vraiment se concentrer sur son travail. Mais en même temps, j'ai eu des scénaristes qui se divisaient, subdivisaient le travail parce que pour eux autres aussi, c'était titanesque. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qui travaillait par petits blocs, petites scènes qui pouvaient durer de 2 à 15 planches, disons. Bon, l'inauguration de l'investiture de Roosevelt, par exemple, ou des trucs comme ça. Bon. Moi, je pouvais me concentrer sur cette petite scène-là en évacuant tout le reste qu'il y avait autour, tout ce qui allait suivre. Donc, avec cette scène-là vraiment super bien documentée, qui m'arrivait ensuite, moi, je pouvais dire, bon, mais je pouvais cloisonner un peu toute cette information-là et me concentrer sur l'information spécifique que j'avais à aller glaner pour trouver les visuels qui s'accordent.
J'imagine que de fonctionner par séquence comme ça aussi, par épisode, ben, ça permet d'avoir des succès, de pas toujours être comme vous disiez dans le « OK, je suis rendu à la 100e, à la 150e planche. »
C'est comme fermer un petit dossier puis dire « Bon, ben oui, OK, je peux partir le week-end tranquille puis passer à autre chose. » Puis, ben, il y a un côté aussi rafraîchissant parce que, bon, il y a beaucoup de discussions de bureaux ou des choses comme ça. Puis, tout à coup, bon, la semaine suivante, ben, on attaque une scène de kamikaze, par exemple. Donc, cette balance-là en toutes ces différentes scènes-là, ces endroits-là, ces pays-là, faisant en sorte que, ben, on s'ennuyait jamais. Bon. Puis en plus, ben, il faut que je lève mon chapeau au scénariste. J'ai jamais eu à discuter plus qu'une virgule ou deux aux 50 planches avec ces gens-là. Si je m'étais pas senti en confiance avec eux, ça aurait pu être difficile. Mais vraiment, ça a été un charme de travailler avec ces gens-là.
Oui, parce qu'effectivement, quand on se lance comme ça, on se lance sur la durée. Là, c'est clairement un 4-5 ans des vies d'un peu tout le monde qu'on met sur pause, qu'on consacre à un projet comme celui-là. Donc, il faut être en confiance, il faut avoir les garanties dont on a besoin aussi pour avoir envie de plonger.
Oui. Bien, il y a eu des bonnes discussions avant de signer quel contrat que ce soit. Pour savoir si on était vraiment sur la même longueur d'onde, savoir si on avait les mêmes intentions parce que, justement, c'est facile de tomber dans le manichéisme. C'est facile de faire ressortir nos biais personnels. Puis pour moi, c'était important de l'approcher avec un esprit d'historien et avec un code d'éthique de journaliste. Parce que c'est inévitable, à un certain moment donné, bon, on ne peut pas tout donner de la façon dont ça s'est dit de façon historique, autrement dit. Il faut mettre une voix à ces événements-là. Il faut que ces gens-là parlent. Donc, c'est évident que tous les événements, bon, à part du côté japonais, si on pourra s'en parler, sont avérés. OK, mais du coup, faut insuffler de la vie dans ces personnages-là. Il faut qu'il y ait des dialogues ou des choses comme ça. Je crois que ça aussi, c'est porteur pour le lecteur. Ça réussit à faire passer de l'information sans qu'on sente que c'est un ouvrage didactique.
Mm-hmm. Oui, puis j'imagine que c'est toujours un peu le défi dans les récits historiques quand on parle de personnages réels. Bon, Szilard, par exemple, Oppenheimer, Einstein et les autres qui figurent un peu dans ce récit-là, c'était des êtres humains, c'est des scientifiques, c'est des militaires, c'est des politiciens. Il faut les faire basculer pour en faire des personnages de bande dessinée. Il faut, dans le fond, réussir à aller... il faut réussir aussi à faire ce point de bascule-là pour que, après ça, le lecteur, sur 450 pages, puisse facilement les reconnaître, savoir à qui s'agit, à qui s'adresse, c'est quoi le contexte, et qu'il y ait des repères par rapport à ces personnages-là aussi.
Oui, parce que c'est certain qu'il y a des éléments que j'oserais pas appeler des éléments de caricature, mais il y a des éléments qu'il faut utiliser pour bien typer les personnages. Le général Groves était réputé pour faire des grandes colères, pour être très autoritaire. Bon, c'est facile d'ensuite le mettre en opposition avec des scientifiques qui, eux, ont d'autres préoccupations que l'élément, par exemple, du top secret. Eux autres, c'était c'était vraiment hors de leur vision du monde, parce que la science on peut seulement se bâtir par le partage d'informations. Donc, les mettre, ces gens-là, en opposition permettait de les contraster, mais en même temps de bien les illustrer, de bien les typifier. Il y a certaines anecdotes aussi qui peuvent ajouter au personnage sans qu'on soit... disons qu'ils peuvent donner l'impression qu'on caricature. Mais je reprends l'exemple du général Groves. On le voit souvent manger une barre de chocolat. Bien, c'est avéré. Il y avait un tiroir de bureau plein de friandises qui, c'était le personnage. C'était la façon dont les livres d'histoire le décrivent. Donc, on ne pouvait qu'utiliser ces choses-là justement pour rendre ces personnages-là humains, puis qu'on puisse, sans les caricaturer, en faire des personnages de bande dessinée.
Oui, puis c'est la force de la documentation, dans le fond, d'aller creuser, d'aller chercher l'information, puis trouver les détails qui nous permettent d'accrocher ou de saisir, d'avoir une certaine compréhension, dans le fond, de comment ces personnes-là, auxquelles on n'a pas accès de façon directe, donc nécessairement toujours à travers ces filtres-là, mais de pouvoir rappeler un peu sur qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, c'était quoi leur tic, c'était quoi leur personnalité, comment ils étaient perçus. On revient dans le fond à l'importance du travail de documentation là-dessus.
Oui. Puis, c'est après tout ça aussi qu'on comprend un peu leur motivation puis leur transformation. Le personnage de Zillard, il reste clé pour nous parce que justement, il y a toute cette transformation-là dont on discutait un peu plus tôt. Mais il y a Oppenheimer aussi en lien avec justement sa vie personnelle qui était un petit peu compliquée. Ces liens qu'on a malheureusement seulement pu qu'effleurer, ces liens un peu avec le Parti communiste, qui a causé quand même beaucoup de problèmes après la guerre. Mais son côté aussi un peu mystique, où est-ce que, bon, il cite de la poésie, c'est un génie lui-même, même si lui n'a pas eu le prix Nobel. Mais il reste que... ajouter toutes ces choses-là où est-ce que on se met à comprendre le personnage puis on peut le mettre en scène. Le Oppenheimer que moi j'ai illustré va souvent détourner son regard. C'est pas quelqu'un qui va prendre ses interlocuteurs par le collet. Par contre, un Zillard, oui, c'est du feu, c'est vraiment une force de la nature, ce personnage-là. Puis c'est la raison pourquoi il s'est jamais entendu avec le général Groves. C'est pour ça que il a jamais vraiment fait partie officiellement du projet Manhattan. C'est parce que ça a été un coup de foudre inversé. Dès le départ avec ces deux-là.
Oui, puis j'imagine qu'on est un peu chanceux dans des situations comme ça où il y a déjà des belles dynamiques entre les personnages, où on peut facilement les mettre en relation et faire qu'à travers cette mise en relation-là, les dialogues, les échanges, la perception qu'ils ont les uns des autres, bien, de tomber dans la caractérisation parce que la dynamique est forte, parce que la chimie ou la non-chimie est forte aussi. Donc, c'est un bel hasard qui a dû vous rendre la charge un peu plus facile aussi, qu'il y ait déjà ces éléments-là qui soient dans la vraie histoire existant.
Oui, puis c'est pour ça que si on réussit à avoir les bons éléments, parce que c'est clair qu'on ne peut pas faire le même genre de truc avec Charlemagne, disons, mais il y a tellement de documentation, il y a tellement de choses qui se sont écrites sur le sujet que c'est facile d'aller chercher ces petits éléments-là, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de les laisser aller parce que l'humain étant ce qu'il est, ben quand on arrive dans un chassé-croisé entre la science, la politique et le militaire, c'est clair qu'il va y avoir des conflits.
Et par la suite, enfin, on parle des personnages, mais si on les ramène même à leur consonance visuelle, dans le fond, comment ils s'habillent, quel type de chapeau ils mettent, quel type de compteur Geiger on va utiliser, quel type de bateau, quel type d'auto, quel type de... Là, subitement, il y a aussi toute une mise en contexte historique qui devient hyper nécessaire et qui, dans le contexte d'un récit qu'on veut montrer comme étant journalistique, dans le fond, quasi documentaire, Ben, j'imagine qu'il faut aussi s'assurer que la documentation visuelle, que les éléments qu'on choisit de représenter, le soit aussi avec justesse, que l'auto des années 20 soit pas celle des années 60 ou des années 40,
Ouais.
dans notre cas.
Ouais. Ben, dans ce cas-ci, c'est justement, j'arrivais à utiliser la documentation qu'on était chercher justement dans les livres d'histoire, que les scénaristes ont ramassé. Et moi, je devais justement prendre ces éléments-là et après ça, chercher le visuel. Ma difficulté, ça a été, par exemple, quel type d'oscilloscope Szilard pouvait utiliser pour sa première expérience. Bon, parce que l'anecdote est importante aussi, puis on sait, la seule critique qu'on a eue à ce sujet-là, c'est que oui, ben, c'est un peu potache comme mot, oui, l'oscilloscope n'était pas branché, puis tout ça. Mais c'est vrai, ça aussi. La première expérience, il se demandait pourquoi ça ne fonctionnait pas, ben, il avait oublié de brancher l'oscilloscope. OK? Donc, même là, l'écran d'oscilloscope, c'est le genre de discussion qu'on a eues, qui ont été les plus longues avec les scénaristes. C'est-à-dire, oui, mais quel type d'oscilloscope? Je le dessinais de la façon habituelle de horizontale, mais semble-t-il, selon les papiers qui ont été publiés sur l'expérience, ben, les lignes de lumière qu'on peut voir, donc du type un peu radar, ben, il était vraiment vertical dans ce cas-ci. Donc, on ne peut pas aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas toute l'information qui existe, mais on peut quand même aller plus loin que ce qu'on fait avec Hollywood où est-ce qu'on empile le paquet de machinerie et on dit voilà, on est dans un laboratoire. Dans un cas précis, ça a été la pile atomique. De l'expérience de Fermi dans l'Université de Chicago, la première pile atomique qui a été construite, ben, il y a pas eu de photo qui a été prise parce que c'était tellement top secret, il y a eu seulement des croquis, des illustrations. Donc, il a fallu que je prenne cette information-là et me dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut construire un truc pareil? Mon information de base, c'est qu'ils l'ont construite dans un terrain de squash, okay, sous l'université. Donc, j'avais mes mesures. J'ai réussi à trouver en 3D un court de squash sur lequel j'ai bâti moi-même la pile atomique en 3D pour avoir vraiment le sens du format de la chose. Donc, bon, c'était pas trop difficile, je suis pas très bon en 3D, mais quand même, c'était quand même un bloc assez volumineux, assez massif. Donc, il fallait aller jusque-là, à mon avis, pour vraiment bien représenter le truc, puis dire oui, parce que c'était une expérience qui était, bon, un peu faite avec des bouts de ficelle, puis littéralement, parce que un des derniers pare-feu, si on peut dire, qui pouvait empêcher que la réaction en chaîne soit incontrôlée, soit incontrôlable, c'était de tirer une corde au-dessus de la balustrade. Il y avait un mec avec une hache qui était prêt à couper la corde pour qu'il y ait une coupure qu'il y ait un truc qui retombe et qui vienne couper la réaction en chaîne. Donc, c'était vraiment un peu fou. Puis c'est là qu'on s'aperçoit aussi que ces gens-là expérimentaient un peu sans trop savoir les dangers. On se retrouvait en plein milieu de la ville de Chicago. Si ça avait dérapé, ça aurait pu être extrêmement dramatique. Donc, c'est cette mise en contexte-là qui devient intéressante pour nous. C'est pour ça que, bon, quand on se rencontre tous les trois, bon, on peut parler des heures et des heures de tous ces trucs-là. Parce qu'il y a une fascination, parce qu'on s'aperçoit que la dramaturgie est déjà toute là. On n'a pas besoin d'inventer des choses, on n'a pas besoin d'essayer d'accrocher le lecteur avec des trucs bon, un peu farfelus, simplement pour bon, garder l'intérêt. Tout est là.
Tout est là, il faut juste réussir à le trouver, à le faire émerger. Et dans un contexte où, parce que souvent on dit, ben, on peut toujours chercher sur Internet aussi, mais au niveau de la bombe atomique, des fois, il y a information falsifiée. On peut tomber, quand on fouille un peu aussi dans des théories plus complotistes ou autres, dans l'information qui n'est pas toujours claire ou dans des contextes où l'information est métissée. Par exemple, entre les ruines de Nagasaki, celle d'Hiroshima, le champignon de Nagasaki, celui d'Hiroshima et le reste. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, et c'est une décision que vous aviez prise aussi en équipe, vous êtes rendu sur place à Hiroshima, on va au Musée de la Paix, on va accéder aux documents sur place qui sont conservés là. Une visite qui devient nécessaire, j'imagine, pour le côté documentation, mais qui vient aussi grandir le côté humain, la compréhension d'un point de vue humain, d'un point de vue émotif de ce qui s'est passé autour de ça.
Oui, ça a été vraiment important. On a vraiment fait le travail. Tout ce qui se trouvait à être du chapitre japonais, si on peut appeler ça comme ça, a été fait à la toute fin parce qu'on on avait prévu un voyage, tous les auteurs, à Hiroshima pendant les commémorations du 6 août. On s'est préparé quand même mentalement avec un minimum de recherche, mais il reste que il n'y a rien comme être sur place. La ville a été rasée au complet, mais il reste quelques buildings qui ont à peu près tous été transformés en musées. Un guide absolument extraordinaire. Qui nous a amenés dans les archives du Musée de la Paix, qui nous a fait vraiment compléter un peu tout ce qui peut nous manquer un peu sur le sujet au Japon. Puis en même temps, on a conservé des contacts avec ce guide-là, son grand-père est décédé à Hiroshima. Et sa grand-mère, qui, elle, était encore toute jeune, a évité le désastre parce qu'il avait l'habitude d'envoyer les enfants à la campagne au moment où il pouvait imaginer qu'il y avait un bombardement. Donc, elle-même a regardé ce qu'on a fait. Et on a vraiment été le plus possible dans l'élément de réalité que pouvaient vivre ces gens-là à l'époque. Donc, on a eu des gens, bon, en même temps qu'un physicien qui nous a un peu surveillé sur le côté scientifique, ben ce côté-là, vraiment, on s'est senti quand même un peu plutôt bien appuyé. Donc, au-delà de ça, ben il reste que la bombe elle-même, les résultats de la bombe elle-même, bon, c'est une grande charge émotive, c'est quelque chose, c'est énorme. Puis pour moi, ça a été vraiment la dernière scène que j'ai pu dessiner parce que au-delà de la recherche qui n'est pas facile à faire, ben il y a cet élément-là émotionnel qui a été vraiment en plus, poussé encore plus loin par notre présence aux commémorations, où est-ce que là, on sent vraiment l'ambiance de la chose, où est-ce que on sent là, que oui, c'est au-dessus de notre tête que ça a explosé. Ça a été difficile à dessiner cette horreur-là. Puis c'est pour ça que tout à coup vient l'intérêt du noir et blanc pour nous donner une certaine distance vis-à-vis de ces choses-là, puis pas le transformer en film d'horreur ou faire des trucs peut-être un peu gratuits ou sanguinolents pour rien. Pour moi, c'était pas la seule raison pourquoi on a fait du noir et blanc, mais en même temps, c'était la meilleure manière pour moi de représenter toutes ces choses-là. Parce que c'était vraiment difficile, c'est pas facile.
Non, effectivement, mais en fait, j'ose à peine imaginer, parce que dans le fond, on parlait de documentation, donc faut comprendre un peu l'effet, l'impact que ça va avoir. Et après ça, tranquillement, dans le fond, expliquer, présenter, dans le fond, visuellement, parce qu'en plus, cette séquence-là est que que visuel ou presque pas de... Donc, on voit l'horreur, on voit la dévastation. Donc, ça a dû... J'imagine de trouver aussi le bon ton, la bonne manière, la bonne approche, le bon type de trait aussi pour amener tout ça. C'est...
Ouais. C'est là qu'on sent qu'on marche sur une corde raide parce que faut pas l'amenuiser. Il faut pas non plus faire dans la trance, puis faire des choses qui nous sortent justement de cette émotion-là, parce qu'il faut arriver devant cette scène-là et la ressentir, puis pas dire « Ah, ben c'est curieux ce truc-là, c'est vrai » ou se poser des questions. Donc, du même coup, moi, il faut que je sois, que ma documentation soit blindée sur ce côté-là, mais en même temps qu'il y ait une certaine transparence dans la narration pour pas qu'on trébuche dans certains trucs et dire, ben, j'ai perdu le fil émotif de cette scène-là à cause d'un détail qui choque.
Et un impact émotif qui est décuplé aussi, qui amène la nécessité d'amener le lecteur vers le Japon. Donc, on parlait, vous l'avez mentionné, Denis Rodier, dans le fond, bon, la majorité des personnages, voire la quasi-totalité des personnages sont historiques, c'est documenté. Mais quand on arrive du côté japonais, ben, c'est maintenant comment représenter l'humain, donc la victime, au bout du compte, de cette bombe-là, comment la concrétiser. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a choisi d'inventer, dans le fond, une famille japonaise qui allait nous permettre un peu cette porte d'entrée vers cet univers-là, de comprendre ce qui s'y passe, de voir un peu la dynamique, les pressions de la guerre, les pressions impériales, de comprendre un peu comment ça se passait sur le terrain. Et après ça, de pouvoir aussi ressentir avec cette connaissance-là, une fois que la bombe arrive, dans le fond, d'avoir été là, nous aussi, comme lecteurs.
Oui, parce que cette famille-là nous permettait de brosser un portrait large du Japon. Okay? Il fallait faire des raccourcis à un moment donné pour éviter le manichéisme aussi. Parce que pour le Japon, c'est pas des victimes de la guerre. Okay. Oui, Hiroshima, les civils, oui, c'est un autre contexte. Mais mettre... cette guerre-là qui pour eux était une guerre de conquête, il fallait aussi avoir un portrait complet, mais avec le peu d'informations qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tellement de place pour ajouter beaucoup de personnages, mais que ce soit la bataille d'Iwo Jima, que ce soit les kamikazes ou même le père qui, lui, représente le côté un peu antimilitariste de tout ça et qui dit que c'est une guerre complètement futile, ben c'était important de la synthétiser dans un noyau familial. Puis, du coup, ça nous permettait aussi d'humaniser aussi les victimes et de faire une différence aussi entre l'aspect militaire et l'aspect civil. Parce que c'est les civils qui ont été la grande victime de tout ça.
Et nécessairement, en fait, les allers-retours dont on parlait tantôt avec justement les gens qui ont vécu sur place, qui étaient jeunes à l'époque, qui ont survécu à la bombe, ces allers-retours-là devenaient extrêmement précieux aussi pour s'assurer qu'en synthétisant puis en tentant d'expliquer, de contextualiser, bien, on n'avait pas échappé de détails importants ou il n'y avait pas des éléments qui pouvaient, ne serait-ce des fois dans les objets, dans la manière dont les décors étaient agencés, faire décrocher un lecteur qui, lui, savait comment ça fonctionnait à l'époque, par exemple.
Ouais, parce que c'est difficile. C'est tellement une culture qui est différente de la nôtre qu'il ne faut pas, glisser trop d'anachronismes puis faire décrocher justement quelqu'un qui s'y connaît parce que là, ben, tout à coup, on perd de la crédibilité. Puis, malgré qu'on veuille amener le lecteur à ressentir plutôt que s'attarder à des détails scientifiques ou historiques, il reste que, justement, des fois, quand on voit les ficelles qui tiennent les pattes du monstre dans un film d'horreur, on décroche. Bon, c'est d'essayer de tenir l'illusion jusqu'au bout pour que les gens puissent absorber l'information qui est pertinente au niveau historique, mais en même temps, ben, se sentent pas faire tout crouler l'édifice avec seulement quelques petits détails qui nous manqueraient. Donc, il fallait pas lâcher le morceau et puis aller jusqu'au bout de la recherche.
Oui, puis j'imagine, en fait, même pour le lecteur, puis un des défis qui, j'imagine, revêt aussi beaucoup de la mise en scène, on parle quand même d'un plus de 450 pages à lire, c'est une brique, et j'ai l'impression, mais en fait, comme lecteur, on commence, on n'a pas envie d'arrêter, c'est de réussir justement à nous donner cette dynamique-là, le côté haletant. Il y a des épisodes qui s'y prêtent quand on tombe dans l'espionnage, la dynamique de la course à la bombe qui permet un peu d'avoir un petit côté thriller aussi presque à l'intérieur de ça. Mais j'imagine que c'est de se dire, ben, le lecteur, justement, dans ma mise en page, dans mes cadrages, dans le rythme que j'insuffle au récit, qui reste dynamique, sachant que des fois, je vais avoir des séquences plus où je vais pouvoir peut-être plus m'éclater un petit peu plus, mettre un peu d'action, si on peut dire, mais où il y a tout un lot de séquences qui sont aussi des discussions de bureau qui sont franchement plus dures à mettre en scène aussi.
Oui, ben tout ça, pour moi, je le vois d'une manière un peu égale. Chaque scène son lot de défis, mais en même temps son lot de plaisir. Parce que une discussion de bureau, si elle est bien écrite, c'est un plaisir à mettre en scène. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut rendre ça intéressant pour le lecteur, parce qu'une série de têtes parlantes avec des pavés de texte au-dessus de la tête, c'est pas très évident. Puis j'apprécie aussi le fait que mes co-auteurs ont fait confiance jusqu'au bout en n'essayant pas trop de diriger un peu le découpage. Parce que souvent, on peut avoir des scénaristes qui vont dire, bon, ben, case 1, contre-plongée, machin, puis case 2, non. Là, c'était plutôt description avec un contexte historique. La scène se déroule à tel bureau, dans tel édifice, à telle année, avec ces personnages-là. Puis un peu, c'est comme si, ben, vas-y, Denis, puis fais la mise en scène de tout ça. Ce qui m'a permis, justement, de faire des jeux graphiques, de faire de la musique. Bon, je fais souvent le lien avec la musique parce que pour moi, ça prend un continuum comme dans une partition où est-ce que il y a des points forts, il y a des points un peu plus lents, il y a des points d'orgue, il y a des finales et des choses comme ça. Où est-ce que certaines scènes pouvaient être self-contained en bon français, ok, qui soit entière en elle-même. Où est-ce que, par exemple, il y a une scène où est-ce que c'est des flashs très rapides qui se passe au Japon, en Angleterre et en Russie. C'était comme si chacun des protagonistes, chacun des pays avait une réaction aux événements, au même événement. Donc, ce que j'ai réussi à faire, c'était de mettre, par exemple, les Britanniques avec en bas de page simplement une voix off, mais par-dessus le portrait du roi George. Quand on arrivait au Japon, ben là, on avait en finale le portrait de Hirohito. Puis en Russie, évidemment, ben, il y avait le portrait de Staline. Donc, ça donnait une rythme qui permettait de faire sentir aux gens que, oui, on se déplace, mais on comprend bien où on est, on comprend bien le contexte historique et géographique. Mais en même temps aussi, ça donne des petites ponctuations comme ça. Donc, pour moi, cette musique-là, si on m'impose trop une façon de découper une page, ben ça m'empêche de le faire. De la même manière que, bon, ça, on s'était mis d'accord, puis c'était une suggestion de Laurent Frédéric, je crois, de partir avec un motif circulaire, puis souvent répété. Bon, on pouvait partir justement avec, bon, dans le fond, il pourrait avoir la lune, mais la lune était pleine toujours. OK, mais ça pouvait s'illustrer bon, en début de scène, bon, un close-up sur une roue, parce que le général Groves arrive en Jeep. Ensuite, ça pouvait être une lunette ou un truc comme ça. Puis on est allé justement, c'est là que je suis allé un petit peu plus loin, où est-ce que le plan en plongée des œufs du déjeuner de du président Roosevelt, ben, il était crevé. Donc, il dégoulinait vers le bas, ce qui amenait peut-être un petit champignon atomique. Il y avait une fumée de cigarette qui faisait un petit peu la forme d'un champignon atomique. C'est pas pour faire passer pour un génie ou faire passer pour intelligent seulement, mais c'était une façon aussi de ponctuer les choses et de se faire plaisir un petit peu, puis jouer un petit peu de façon graphique. 90% du lecteur ne verra pas ces choses-là. Mais nous, dans le contexte d'un album si gros, ça nous faisait simplement sourire, puis ça ajoutait au plaisir de dessiner tout ça.
Oui, puis j'imagine que pour l'effet d'ensemble, pour la cohésion, c'est dans le fond un truc qu'on dessine un an plus tard, après ça, on en revient, on est d'autres chapitres. Donc, c'est quand c'est fait sur la longueur comme ça, aussi sur plusieurs années, de s'entendre sur des motifs, sur des cadres, sur des éléments, sur certains a priori visuels, entre autres, ça permet après ça de... Je reviens à mon sentiment de cohésion, dans le fond, au bout du compte,
ouais, la direction. Oui, parce que le danger, c'est que le style de dessin change de la première page à la dernière. Donc, il fallait vraiment s'accrocher sur des choses qui nous donnaient cette cohérence-là, même si ça pouvait paraître bien, bien futile. Je suis conscient que mon Léo Szilard n'est pas tout à fait pareil au pain. C'est inévitable quand on dessine un personnage pendant 4 ans, tout à coup, on le possède un peu plus, puis il se transforme un peu. Mais je crois que le vrai défi, c'était d'avoir une cohérence stylistique. Mm-hmm. Parce que j'aime faire beaucoup de styles, mais là, il fallait travailler vite aussi. Il fallait justement pas trop réfléchir sur le dessin et plutôt se concentrer sur la mise en page et la mise en scène.
J'imagine que ça influe aussi sur les niveaux de détail, par exemple, qu'on allait mettre dans les images, dans les cadres, ça influe sur le choix du noir et blanc. Donc, il y a des éléments qui ont été choisis en partie par volonté de clarté, en partie par volonté d'efficacité aussi.
Oui, tout à fait, parce que on se cache pas que à avoir voulu, j'aurais pu mettre des centaines de planches avec des buildings et des milliers de fenêtres et un paquet de détails sur les avions en montrant tous les boulons, mais je n'y sentais aucun besoin. C'était pas le but de montrer tous ces boulons-là, c'était de montrer vraiment l'action et de pas justement se laisser distraire par ces détails-là. Et c'est un petit peu le bon côté de ces impératifs de date de tombée super précise, c'est qu'il faut se concentrer sur un dessin efficace, puis qu'en même temps, qui nous permet d'un autre côté, si on parle, par exemple, de certains avions, si on le fait à contre-jour, il va être tout aussi réaliste, mais sans avoir à se donner des heures et des heures de travail à tout dessiner de façon très, très réaliste. Mais en même temps, ces contre-jours-là nous donnaient des masses de noir qui nous permettent de faire une composition de page qui peut être encore plus intéressante. Donc, le noir et blanc, pour moi, ça n'a jamais été un compromis. Ça a été un plaisir, justement, parce qu'on pouvait y aller avec des masses solides, avec des portées qui peuvent cerner certains éléments importants du dessin, qui peuvent vraiment faire avancer la lecture sans qu'on soit bloqué par un paquet de détails. Parce que souvent, on utilise la couleur pour clarifier certains éléments, pour contraster, par exemple, un fond de l'avant-scène. Mais là, on n'a pas ce filet-là pour nous protéger. Il faut approcher le travail d'une façon différente, mais il y a quelque chose de libérateur en même temps, de dire, paf, tout ça, c'est en contre-jour, parce que tout au fond, il y a un petit élément sur lequel je veux attirer l'attention, puis ça va être cette masse noire-là qui va être mon cadre. qui va faire la focale sur cet élément-là. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler en noir et blanc et se dire, bon, ben, c'est la totalité de l'image, ça va être ça.
Oui, puis en fait, même pour le lecteur, je veux dire, je le mentionnais tantôt pour les personnages, dans le fond, où il faut les reconnaître, se replacer rapidement. C'est la même chose pour l'ensemble, dans le fond. Donc, si on joue avec un bon niveau de décor, qu'on réussit à amener, à guider le lecteur, à dire, ben voilà les éléments importants, nous accompagner un peu dans cette musicalité-là du rythme narratif aussi, mais ça fait que le 450 pages, il coule de source, dans le fond, on lit sans effort, et ça devient pas une épreuve pour nous de plonger dans ce livre-là parce que vous nous prenez bien en main, dans le fond.
Oui, parce que c'est ça, c'est que si l'impératif, c'est la lecture, puis c'est pas de faire un peu de l'esbrouf pour impressionner, bien, à ce moment-là, bien, ça nous libère d'une certaine façon d'une surenchère qui peut arriver, qui peut ne pas presque souvent nuire au récit. Il faut y aller au centre du sujet, mais souvent, seulement dans la matière, dans la façon, dans le formel du dessin, réussir à simplement jeter le dessin d'une façon libre pour qu'il soit intéressant à regarder aussi. Parce que seulement l'utilisation du pinceau, si on se met trop le contrôler, ben tout à coup, ben il y a une certaine raideur qui s'ajoute. Quand un simple coup de pinceau lâché rapidement devient plus expressif et permet de décupler la vitesse de travail aussi.
Et quand on parlait aussi de l'avantage, en fait, de l'idée de donner l'avant-plan à la narration, il y a aussi la présence, justement, d'un narrateur. Et j'imagine que le défi a été de trouver quel type de narrateur on voulait aller chercher. Finalement, côté scénario, on a choisi d'aller vers l'uranium. Dans le fond, la matière va nous servir de narrateur, va nous permettre d'aller quelque chose qui est peut-être un peu, d'aller chercher une entité qui est un peu désincarnée par rapport à la réalité du récit, mais qui est au cœur, quand même, de ce récit-là.
Oui, oui. Disons que ça a été un coup de génie parce que du fait d'un récit qui est choral, qui implique tellement de personnages, il n'y avait aucun des personnages qui pouvaient nous raconter l'histoire au travers de tout cet arc narratif. Bon, ils ne pouvaient pas passer du Japon à l'Allemagne et tout ça. Donc, et ça nous prenait quelqu'un qui était à l'écart de tout ça, qui regardait ça un petit peu de haut, puis en même temps, bien, ça nous permet aussi d'aller sur un autre niveau que le littérateur, puis d'aller vraiment vers quelque chose qui est un peu plus fort conceptuellement parlant.
Et puis j'imagine qu'en fait, ça ajoute aussi aux différentes séquences, parce qu'à l'intérieur de ça, on parlait de la variété des épisodes, mais il y a eu des débarquements militaires, il y a eu des opérations scientifiques, il y a des scènes de bureau, il y a de la vulgarisation scientifique, il y a de la géopolitique, ça ajoute aussi des séquences autour du dieu uranium qu'on peut éclater peut-être un peu plus. Donc, même pour vous, côté dessin, ben il y a différents récits dans le récit où j'imagine qu'on n'approchera pas une séquence du dieu uranium de la même manière qu'on va adresser une séquence de vulgarisation scientifique, de la même manière qu'on va adresser la séquence plus guerrière, par exemple.
Oui, parce que ça aurait été trop facile de faire une bande dessinée faite de têtes parlantes. Ça aurait été... C'est là qui est un petit peu le tour de passe-passe. C'est d'essayer de rendre cette histoire-là qui se passe à 90% dans des bureaux, sinon des laboratoires, de la rendre intéressante visuellement puis de la rendre dynamique dans une narration de BD. Okay? Cet élément-là de l'uranium faisait en sorte aussi qu'on commençait avec un vrai coup de canon en disant, bon, ben oui, c'est de l'historique, mais il y a une façon d'illustrer l'histoire. Ou est-ce que c'est pas, bon, bêtement, je sais pas, George Washington qui traverse le Delaware en canot, puis... bon, autrement dit, c'est simplement pas de s'asseoir sur le simple factuel tout bête et dire bon ben oui parce que il y a des façons d'illustrer par exemple comment on peut illustrer le flash d'intuition que Léo Szilard a lu sur la réaction en chaîne. Oui, l'inspiration est venue des feux de circulation qui changeaient. Oui, mais comment on met ça, comment on illustre ça? Okay? Parce que seulement le verbaliser, c'est pas évident, les neutres secondaires, ces choses-là. Et aussi mettre simplement un graphique avec la réaction en chaîne, puis les petits neutrons secondaires, ces machins-là, ben, ça fait un petit peu sec. Donc, tout mettre ça, puis de le mettre en vie dans une presque une scène allégorique, ben, tout à coup, bon, on arrive avec un truc qui est plus facilement lisible, qui est dynamique, puis qui peut intéresser le lecteur. Parce que c'est vrai que le sujet est un petit peu aride.
Oui, puis là, on comprend bien, effectivement, en relation avec ce que vous disiez au départ, donc sur la structure par segment, donc dans le fichier Excel avec voici, OK, là, on a deux planches, on a 16 planches sur tel sujet, voici la documentation, puis après ça, ben OK, comment, donc chaque séquence devient un peu un problème, chaque problème trouve sa solution, vous la mettez en application, et là, je pense qu'on comprend un peu le rythme aussi de travail, puis comment on réussit avec cette approche-là à se sortir de 5 ans, à se sortir du 450 planches, puis à ramener ça à une série d'essentiels qui permet de survivre, dans le fond, j'ai l'impression, à un projet de cette ampleur-là.
Oui, oui, ben, il y a une question de santé mentale là-dedans aussi. Hein? Il faut que... Mais c'est ça, ça fait partie aussi du rythme de travail, parce que moi, je pouvais travailler de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures constamment, mais une fois que 18 heures a sonné, une fois que vendredi soir arrive, ben je ne fais plus rien du week-end. C'est la discipline, c'est un peu ça aussi. C'est savoir quand arrêter, puis se permettre d'évacuer. Parce que, Dieu merci, c'est pas un projet que j'ai écrit. Parce que quand on écrit quelque chose, on est obsédé, ça nous suit de jour et nuit, ces choses-là. Tandis que là, au point de vue du dessin, comme c'était cloisonné en petites séquences, ben, je pouvais évacuer, vider la mémoire RAM, puis ensuite commencer à neuf avec quelque chose d'autre. C'est ça, cette discipline-là, ben, c'est ça. C'est une fois qu'il est 7 heures, tu es à table de dessin, ben, tu te lances et t'arrêtes pas.
Éventuellement, dans le fond, après, c'est qu'on s'essaie de concentrer sur différents arbres, d'avoir des moments de recul où là, on prend conscience de la forêt qu'on est en train de générer avant de replonger vers d'autres.
Exact. Puis ça a été vraiment presque une surprise de voir tout le truc assemblé après ça, puis pouvoir lire ça du début à la fin, parce que évidemment, bon, on voit les Japonais depuis le début du récit, mais moi, j'ai dessiné ça à la toute fin. Donc, c'était toute une courte pointe qui devait être montée pour vraiment l'apprécier une fois terminée. Parce qu'ensuite, c'est seulement des petites images, des petites séquences presque désarticulées du récit global.
Et de finir un travail de cette ampleur-là, parce que là, on est quelques mois après la fin du projet, je veux dire, l'édition, tout s'est passé comme ça devait se passer. J'imagine que ça doit être particulier de plus être dans ce bassin-là. Je veux dire, comment on réussit à bien terminer ça, puis après ça, à replonger dans autre chose. Je veux dire, avec quoi même on suit un projet comme ça?
Ouais. C'est sûr qu'il y a eu un post-bombe. Oui, il y a eu un moment de vacances et de décantation parce qu'il n'y avait plus moyen de s'y remettre. Mais ça faisait partie du plan aussi parce que c'était tellement intense que je ne voulais pas m'investir dans un autre projet puis perdre l'intérêt pour c'est celui-là qui se terminait. Parce que habituellement, quand on termine un album, quand on termine une série, on a des offres, on a des gens avec qui on veut travailler, puis souvent on se met à discuter de projets. Puis moi, il n'y en était pas question, et j'ai refusé beaucoup de projets. Puis ça m'a pris du temps vraiment à me recentrer, à repartir vers d'autres horizons. Puis c'était essentiel pour moi aussi de ne pas faire la bombe bis, la bombe numéro 2. Le projet sur lequel je travaille présentement est totalement différent. Puis je pense que c'est sain. Il faut savoir balancer tout ça. Puis c'est ça. Pour l'instant, je reprends le rythme, mais quand même pas si intense que pouvait l'être les 50 plus heures par semaine que je pouvais passer sur le banc.
Et en terminant, en fait, quand on a commencé le projet, j'imagine, on a un peu esquissé la réponse, mais j'imagine quand on se lance là-dedans, on n'essaie pas trop de penser à l'ampleur d'eux, mais j'imagine qu'il y a des moments où du moment où on choisit de plonger, on l'assume, on plonge, puis on espère dans le fond que...
Ouais, c'est ça. C'est, une fois que la décision est prise, ben, faut espérer que nos calculs ont été bons.
Parce que... Et quand on a vu la réaction critique, en fait, je pense que les exemplaires, ça a été mis en vente, ça a été réimprimé, je veux dire... Je me mettais à votre place, sachant l'ampleur du travail réalisé, de voir la réaction critique, la réaction publique, la première sortie européenne, que tout allait de source. C'est subitement, on doit se dire, mon Dieu, j'ai pas perdu, j'ai fait les bons choix, ou heureusement.
Oui, certains collègues ont dit que j'étais un petit peu cinglé de prendre un projet comme celui-là. Mais la plus grosse angoisse avant la parution, c'était de dire, ben, est-ce qu'on va se faire tomber dessus à bras raccourcis par des scientifiques, par des exégètes, des gens qui sont spécialistes du sujet? Puis jusqu'à présent, non, ça va bien. Donc, c'était le plus gros soulagement de un. Ensuite, à peine 4 jours après sa parution, on nous a annoncé une réimpression, et 6 jours après, encore une autre réimpression. Donc, on se dit, bon, OK, on est bien placé. Là, présentement, c'est un peu fou parce que ça fait quand même 8 mois quoi, que c'est paru. Puis la presse en parle encore. Les ventes continuent malgré le confinement en France, malgré... c'est paru le 4 mars en France. Donc, après une semaine après, ben, on était en confinement. On est revenu de France un peu en catastrophe parce que toutes les frontières commençaient à fermer et tout ça. Bon, c'était un peu la panique. Puis maintenant, ben, les librairies sont fermées en France. Malgré tout ça, ben, les ventes continuent. Vraiment, on ne pouvait pas espérer mieux, là.
Et les gens qui ne l'ont pas encore découvert peuvent le faire, évidemment. C'est disponible, donc, du côté des éditions Glénat. Ça s'appelle La Bombe. C'est scénarisé par Laurent-Frédéric Bollé et Didier Alcante. C'est dessiné par Denis Rodier et c'est à lire absolument. Denis Rodier, merci beaucoup.
Merci à vous. Un plaisir.
Et c'est ce qui conclut cette édition de La Vie en BD. Alors, c'était Raymond Poirier au micro et on se dit à la semaine prochaine.